Aujourd'hui, dimanche 11 mars, je vais bien. Enfin, je vais bien. En fait, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que Claude François est mort. Clo-Clo, pourquoi t'es parti? Tu pars un 11 mars, en plus, le 11 mars, journée mondiale de la plomberie, ma journée préférée. Bon, je me reprends. Aujourd'hui, 11 mars, c'est aussi le 86e anniversaire de la création des allocations familiales. Ah, ça nous met en joie. Ok, tout le monde s'en fout de cet anniversaire, mais bon, il a son importance. Hein. Même si...
Mais pendant que j'y pense...
Oh, même si c'est rien par rapport aux 40 ans de la mort de Clo-Clo. Merde, à la fin, c'est quand même le plus grand chanteur du monde, ce mec. Même si n'oublions pas que, selon de récents témoignages, côté romance, il était un peu limite, il aimait les filles. Un petit peu jeune quand même. Bref, aujourd'hui, ça fait aussi pile poil 80 ans que l'Allemagne a envahi l'Autriche. Alors oui, je sais, l'anniversaire de l'Anschluss, on s'en fout encore plus que l'anniversaire des Allocs. Mais quand même, ça a été une date importante. Même si... Même si c'était un anniversaire à la con comparé à celui de la disparition de Claude François. Alors oui, je sais, ok, il avait une voix de merde. Et alors? Vous trouvez qu'il chante mieux Christophe Maé? Non, bon alors, chiotte, laissez-moi à mon chagrin. Clo-Clo, c'était le roi de la chanson à texte, de la chanson profonde, de la chanson qui vous fout les poils. Ah, c'est ma préférée! Ma préférée de Clo-Clo! Quel génie, quelle inspiration, quel vibrato! Il y a des fois, il est tellement dans l'émotion, on dirait Jacques Brel. Sinon, à part les 40 ans de la mort de Claude François, ça va plutôt bien.
Vous les femmes.
Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, aux femmes exceptionnelles et de talent, bien entendu. Pour m'accompagner du talent, il les a tous. Albert Algo, comment allez-vous?
Ça c'est gentil, je vais très très bien. Mais ceux qui ont du talent, ce sont ceux qui m'accompagnent. Le père Albert,
oui.
Je suis là. Et aujourd'hui, il y aura le neveu du commissaire Navarro qui sera là, peut-être. Il va peut-être venir.
J'attends avec hâte. Avec nous également aujourd'hui, mon partenaire du petit matin. Il se lève très très tôt, c'est Anthony Bélanger. Comment ça va, Anthony?
Mais je suis en pleine forme, pleine forme. Et on va parler de reine d'Afrique, feriez-vous.
Reine d'Afrique,
impératrice, tout ce que vous voulez savoir sur l'Afrique et sur ses impératrices, vous le saurez avec moi.
Oh, en 3 minutes?
En 2 minutes 50, si je vais tenir, vous allez voir.
Il est capable de tout, ce garçon. Je le fréquente 4 fois par semaine, des potrons minés.
Escroc.
C'est pas faux non plus.
C'est pas faux non plus.
Oh. Autre élément incontournable, celui qui va au-devant des Français avec son tout petit micro, un exercice parfois dangereux, la preuve.
Ah, abruti.
Eh oui. Ce gentil monsieur que vous entendez, là, juste en fond sonore, c'est le délicieux Jean-Luc Mélenchon.
Pas facile.
Comment ça va, Hervé Pochon?
Bah non, mais il faut que j'arrête d'aller sur le terrain. Ça fait 3 semaines que je suis enrhumé. J'espère battre le record du monde.
Ça fait 4 mois.
4 mois, vous parlez, mais le temps passe si vite avec vous, mon cher Daniel.
Oui, mais quel nez.
Oui.
Merci. Que dis-je?
Quel rhume. Formidable. Et nos invités en ce dimanche 11 mars sont...
France Inter, vous les femmes, Daniel Morin.
D'un côté, autrice, réalisatrice, ambassadrice du charme, de la beauté, de l'élégance pour la France tout au long de l'an 2000, engagée dans son travail comme dans le secteur associatif. Elle vient nous voir pour Femmes du Rwanda, son nouveau documentaire qui passe depuis jeudi dernier sur Planète Plus et qui est accessible en replay sur CanalSat. C'est Sonia Roland. Comment allez-vous, Sonia?
Mais ça va très bien, merci.
Et ravi de vous accueillir.
Oh, bah, je suis ravie d'être là.
Eh ben, ça tombe bien.
La deuxième invitée est un peu vexée.
Je croyais que c'était moi.
Ben oui.
Ambassadrice du charme. Voilà. Le nez droit.
Alors, vous venez d'entendre sa voix, comédienne, humoriste, cinéma, théâtre, seule en scène. Eh oui, imitation du crapaud, elle maîtrise tout.
Ouais, bah.
Et comme invitée, elle assure grave également. Suis-je fan d'elle? Oui, je le suis. Elle vient nous voir pour la pièce. C'était quand la dernière fois qu'elle joue aux côtés de Zindine Swalem au théâtre Tristan Bernard? C'est jusqu'au 28 avril. C'est Virginie. Ok, comment allez-vous?
Je vais mieux maintenant que vous m'avez brossé dans le sens du poil.
Ah, mais toujours, vous le méritez. Alors, merci. C'est une présentation qui est très, très, très sommaire. Pour les présentations plus en détail, on fait confiance aux spécialistes et aux amis par la même occasion. C'est le père Albert. C'est à vous, mon père.
Coco.
Bonjour, mon père.
Coco, vous les femmes et créatures apparentées. Bonjour, Virginie. Bienvenue, Sonia. Daniel, dont la paresse crasse n'a d'égal que la désinvolture, m'a donc demandé, ex abrupto, alors que je sortais de ma camionnette au monnerie stand de tir Pizza Mobile, juste avant l'émission, de vous présenter, Virginie et Sonia, vous présenter aux auditrices et aux auditeurs. Et si Daniel m'a avoué que cette tâche le rebutait, pour ma part, c'est de bon cœur que je vais m'en acquitter.
Ok, on vous écoute, Père Albert.
Comme le temps m'est compté, je vais essayer d'être aussi synthétique que le tissu de ma soutane réversible. Soutane qui, comme certains matelas, comporte un côté hiver et un côté été. Côté hiver, donc, comme celui que j'arbore en ce moment, avec rembourrage en laine et toile de jute. Et un côté été, en coton et lin ajouré à forte absorption de l'humidité pour mieux se protéger, me protéger de la chaleur.
Ah, désolé, on n'est pas là pour parler chiffon, si vous pouvez la présentation.
Oui, pardonnez-moi, où en étais-je déjà? Ah oui, je vais tenter d'évoquer le point commun qui rapproche Virginie Hoc et Sonia Roland. Et ce point, c'est la Belgique.
La Belgique?
Daniel, homme de peu de foi, sens bien que le dos t'habite et que tu te dis, en prenant un accent étrange, « Oh, la Belgique, ok, pour puisque depuis sa naissance à Nivelles, elle est bel et bien belge. Mais non, dit Joss, Sonia Roland, qui fut Miss Bourgogne, puis Miss France. La Belgique, je ne vois point. Père Albert, dans le nom rime avec Babelaire, espèce de mot stampé, t'es en train de me raconter des carabistouilles. » Oui. Voilà ce que tu brilles de me dire, Daniel, avec un curieux accent. Et pourtant, Sonia Roland est née à Kigali, Rwanda. Et le Rwanda, jusqu'en 1962, était une colonie belge. Et si en 1962, le Rwanda était une colonie belge, ça veut dire que la maman de Sonia Roland était belge, comme la maman de Virginie Hoc. Et si Virginie Hoc et Sonia Roland ont toutes les deux une maman belge, ça leur fait un sacré point commun. En plus, les deux sœurs de Sonia Roland habitent bien le où Virginie Hoc a fait ses études.
Alors, pendant que vous êtes Père Albert, vous allez me dire aussi que vous avez des points communs avec nos deux invités.
Oui. Vous ne croyez pas si bien dire, Daniel. Primo, j'ai été missionnaire au Congo belge, que j'ai sillonné dans ma camionnette chapelle itinérante réfrigérée. Secondo, comme Sonia Roland, je suis métisse.
Ça ne se voit pas, mon père.
Ah bon?
Et pourtant, c'est la vérité. Je m'explique.
Sous la soupe.
Moi, je suis né à Asnières. 92. Mais alors que mon père était de Levallois-Perret, territoire de la tribu des redoutables Balkanibales, ma mère était native de Courbevoie. Je suis donc un sang mêlé. Voilà. Et moi aussi, je suis métisse. Voilà, j'espère que cet éclairage intéressant, pertinent, sur les origines de vos invités, permettra de mieux les connaître et surtout de mieux les comprendre. Bonne émission.
Merci, super mon père. Nous sommes ensemble sur France Inter. Dans Vous les femmes, les amis, excellent dimanche. Et évidemment, à notre écoute. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? Sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why. Rex Orange County Sunflower.
Vous les femmes?
Uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui? Les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Jusqu'à 18h en très très belle compagnie, d'un côté Sonia Roland et son documentaire Femmes du Rwanda, proposé en multidiffusion et en replay sur Planète Plus, et Virginie Hogg pour la pièce. C'était quand la dernière fois au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 28 avril. C'est du mardi au samedi à 21h. Petit bonus, 16h le samedi également.
Mais oui.
Je ne me trompe pas.
Mais pour les familles.
Mais relâche le dimanche pour qu'elle puisse venir faire les émissions à
et
France Inter.
Non, que je retourne aussi à Braine-l'Alleud. J'écoutais Prince Albert.
Prince Albert. Le père Albert n'est pas ennemi des Princes Albert.
je sais.
D'ailleurs, c'est une de ses décorations. Enfin bon, ce sera peut-être le thème d'une autre émission. Nous allons parler des dates, certaines dates qui ont compté dans votre vie. Mesdemoiselles, nous commençons par vous, Sonia Roland. On commence en 1994. Vous arrivez en France, vous avez 13 ans. Les premiers souvenirs, qu'est-ce que c'est?
La Bourgogne, le froid, le HLM.
Super. Ouais.
Non, pas...
que des bons souvenirs.
C'est pas super. Non, en fait, c'est quand même joyeux malgré tout parce que je retrouve ma grand-mère bourguignonne, grand-mère française. Et puis, on attend patiemment notre père qui est resté au Burundi. Et puis, je fais connaissance aussi avec mon identité française. Mm-hmm. Et c'est des très beaux souvenirs et en même temps, je suis tiraillée parce que on quitte quand même le Burundi de manière très précipitée, sans vraiment savoir pourquoi. Parce que moi, dans ma tête d'adolescente, j'avais pas réponse à tout, quoi. Enfin, mes parents n'avaient pas réponse.
Très brutal à 13 ans de sortir comme ça.
Exactement. Et puis je quitte mes amis, je leur dis adieu. On n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque pour rester en contact. Et quand on dit adieu à 14 ans, c'est pas simple. Hein. Et puis. Malgré tout, je me refais des potes, je vis une très belle adolescence en France.
Mais la transition a été abrupte ou ça s'est fait? Parce que l'adolescence, justement, 14 ans, est-ce qu'il a fallu le temps de s'intégrer, de s'imprégner?
Question de Virginie Hogg, de Braine-l'Alleud.
Excusez-moi. Ouais.
Non, je vous en prie, je situe.
Allô, bonjour Daniel, je voudrais poser une question à Sonia.
Oui, Virginie, on vous écoute.
Non, moi, j'ai une enfance très très heureuse en Afrique, au Rwanda, jusqu'en 89, et puis ensuite... une année en France et ensuite on est reparti au Burundi, rejoindre mon père qui avait une imprimerie là-bas. Et j'ai eu une des plus belles expériences de vie, quoi, parce que on fréquentait l'école française, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de cultures. J'ai grandi avec Gaël Faye et Gaël Faye, on a grandi ensemble. On a des souvenirs très heureux de cette époque-là. Après, quand j'arrive en France, je quitte de manière très précipitée parce que maman, étant toute si à l'époque, on risquait gros à rester au Burundi. Papa nous trouve des billets et nous envoie en France, rejoindre sa mère, donc en Bourgogne. Et arrivé là-bas, on arrive dans des conditions très difficiles. On a tout perdu, on a tout laissé derrière nous. Et puis, ma mère... qui était la seule noire de toute la ville, avait beaucoup de difficultés à trouver du travail, parce que malgré tout, c'est une étrangère, quoi.
Ouais, ouais.
Et puis, elle fait face à des choses compliquées, quoi. Et moi, en fait... c'est mon premier bain français à un âge où on comprend les choses.
Mais
quand même.
Pas de colère alors. Pardon, excusez-moi de poser des questions. J'ai toujours.
Deuxième question de Virginie de France.
Non, mais de colère parce que c'est vrai quand on est adolescent, quand on est déraciné, on pourrait en vouloir à ses parents. Et là, un an.
Pas à mes parents parce qu'ils étaient pour rien. Mais j'en voulais vachement finalement à la vie, quoi. Mm-hmm. Je me disais, c'est pas juste. J'ai perdu tous mes potes. Ils sont restés là-bas. Je les retrouverai jamais parce qu'effectivement, ça a été difficile de les retrouver. La chose heureuse. C'est que grâce à Miss France, ils m'ont tous découvert sur TF1. Mm-hmm. Et puis donc, ils ont tous rappelé ma mère. Mais après, c'est vrai qu'à l'époque, ce qui était compliqué, c'était finalement... Moi, j'arrivais comme une étrangère dans une cité ouvrière où la plupart des gamins, fils d'immigrés français, plus français que moi, ne se sentaient pas français. Et du coup, c'était une interrogation pour moi. Je me disais, mais c'est fou, tous ces gamins qui sont là et qui connaissent beaucoup mieux cette identité française qui n'est pas tout à fait la mienne, mais que je suis en train de redécouvrir, ils étaient complètement paumés, quoi. Mm-hmm. Et en fait, la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir des parents très éduqués qui m'ont donné les bonnes,
bases.
Les bons outils aussi pour grandir.
S'intéresser aux autres alors finalement.
Ouais.
L'intégration, c'est ça, c'est s'intéresser aux autres. Donc.
Ouais, ouais. Mais quand même, on avait un changement social radical. On avait, enfin, il fallait vraiment composer avec tout ça, et c'était pas évident.
Mais c'est parce que je compare avec les adolescents.
Troisième question de
ces adolescents qui tirent la tronche pour n'importe quoi et qui ont ce moment, c'est-à-dire ouais. qu'on quitte un adolescent à 13 ans.
Mais nous, on
arrive à 14 et ils sont horribles.
Ouais, mais nous, ce qui s'est passé. Ouais, mais nous, on échappait déjà à la mort, quoi. Nous, on était vivants et puis.
Mais c'est pour ça que c'est intéressant. J'espère qu'il y en a qui écoutent et qui disent.
Mais peut-être parce que nous, on a vécu vraiment un choc culturel. Un choc aussi et très, enfin, disons, familial, émotionnel. On laissait quand même de la famille au Rwanda. Ma mère n'avait pas contact ni avec son père, qu'elle a retrouvé bien plus tard dans des camps. Mm-hmm. Il a pu d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai un lien avec la Belgique, c'est qu'il a retrouvé ma tante en Belgique. On a pu le rapatrier en Belgique.
C'est ce que je disais, tout à l'heure.
Et il a fini ses jours en Belgique et il a pu voir ses petits-enfants avant de partir. Quoi.
Donc
voilà.
Les outils, c'est ça, c'est de... Pardon, non, j'ai plus de questions, j'arrête.
Vous êtes sûr?
Non, pardon, excusez-moi.
Mais alors, vous intervenez quand vous voulez.
Mais oui, mais pardon.
La tolérance.
Mais ne vous excusez pas, Virginie, c'est un plaisir.
On parlait de changement radical. Et là, on voit là, sacrément radical. C'est en décembre 99.
On va dire ensemble.
Alors.
Miss France 2000 et Miss Bourgogne.
Ça tombe bien, Miss Bourgogne, c'est vous, Sonia.
Ouais, et c'était inédit.
Incroyable.
Stupéfiant.
Miss France 2000. Bon, incroyable cette aventure, racontez-nous.
Eh bien, un jour, sur un terrain de basket, il y a un journaliste pigiste qui était là et qui me dit, mais dis donc, vous avez déjà pensé à vous présenter à des élections de Miss Bourgogne, en l'occurrence. Et je lui dis, mais soit il est daltonien, il a pas bien vu ma couleur de peau, parce que genre rien, je représente la Bourgogne.
Ah, il y a des escargots.
Soit il est vraiment bigleux, parce que alors j'ai rien de féminin, parce que moi j'étais un vrai garçon manqué, j'avais rien d'une Miss, quoi. Enfin, j'avais pas du tout l'allure d'une Miss. Et il me dit, non, aujourd'hui. Mais vous avez les critères physiques, et vous devriez vous présenter. Et donc mon père, qui était enfin, qui se disait, parce que bon, c'est vrai que déjà petite, je rêvais d'être comédienne, je voulais aller à Paris, aller sur les planches et tout ça. Et puis ma mère, elle me disait, écoute, alors, elle allumait la télévision, elle zappait les chaînes et puis elle disait, bon Sonia, quand tu verras quelqu'un qui te ressemble dans cette boîte, tu m'appelleras. Mm-hmm. Mais elle, en fait, il n'y avait pas d'exemple de réussite qui me ressemblait. Donc ma mère me dit, fais tes études et après tu verras. Et bien effectivement, elle a eu raison à ce moment-là. Mais mon père avait...
Il a toujours douri, vous vous apportez finalement, il a eu confiance en vous.
Ah, mon père avait plus que confiance. Et puis il y avait un truc... Il y avait une détermination aussi à... Je vais vous dire, ça va vous paraître un peu bizarre.
Essayez.
Mais moi, j'ai découvert mon identité française à travers Miss France. Miss France, ça a été un grand tour de France où j'ai pu rencontrer toutes sortes de cultures, parce que c'est ça la France, en fait, du nord au sud, d'est en ouest.
Oui,
il y a des régions, il y a du chauvinisme un peu partout. Mmh. Et du coup, j'ai découvert toute la complexité de ce pays et j'ai compris finalement, et c'est une chance pour moi, que finalement, grandir en Bourgogne, dans ce milieu ouvrier, enfermé, cloîtré dans mon HLM, j'aurais jamais pu voir ça et peut-être que j'aurais été une autre jeune femme. Et le fait d'avoir sillonné toute la France, et ben voilà, j'ai connu mon pays, j'ai aimé ma France.
C'est quoi vos plus beaux souvenirs de Tour de France de cette année 2000.
C'est Madame de Fontenay qui conduisait.
Et qu'est-ce que ça donne, non, mais avec moi,
j'adore Geneviève. Mais alors, quand elle conduit, mais on se tenait comme
tout
on
avait
pouvait,
la jambe.
On avait peur. Ah non, mais puis elle a le pied lourd, hein. Alors non, mais non.
Abruti.
il paraît qu'elle roule sur les chapeaux de roue.
Respect.
Merci. C'est Michel Roux, là.
Et non, mais Geneviève connaît chaque emplacement d'arbre de je ne sais où dans quel.
J'imagine.
Elle a fait 1000 fois le Tour de France. Elle est incroyable.
Alors, on change d'univers. En 2002, premier rôle d'actrice, Les Pygmées de Carlo sur Arte.
Avec Radu Mihailanu. Ouais, belle rencontre de cinéma. Et puis ce monsieur qui est devenu un grand frère m'a donné ma chance, m'a donné confiance en moi. Et puis il m'a donné aussi tous les outils, comme mes parents, mais tous les outils pour éviter aussi certaines déceptions de comédiennes. Parce que moi, j'arrivais vraiment d'un monde qui paraît tellement lointain pour les gens du cinéma. Mais Miss France, quoi. Mmh. Pour eux, c'est ah, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, le fait de m'avoir fait confiance m'a permis aussi de comprendre que bah, j'avais ma place, j'avais plus de raison de me sentir illégitime. Quoi.
Est-ce que c'est vrai en préjugé.
Quelqu'un qui vient directement de prendre la leu, je trouve que...
Pas prendre la leu.
C'est quoi le nom?
Même moi, je n'ai pas dit ça.
Est-ce que quelqu'un a parlé à ma place? C'est incroyable, ça.
Mais nous, on disait branle ta cul. Donc, vous n'êtes pas le droit. C'est une petite boutade de chez nous. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait en parler à dimanche. Mais c'est Braine-l'Alleud, Daniel.
Braine-l'Alleud. On passe à mars 2018, peut-être la date la plus importante pour vous. Vous êtes sur France Inter, dans Vous les femmes, pour,
ah oui,
pour Femmes du Rwanda, qui est en multidiffusion, je le répète, et en replay. Votre deuxième docu sur le Rwanda, qu'est-ce qui a changé entre les deux?
Alors, le premier, Rwanda du chaos miracle, je résumais en 60 minutes 20 ans de reconstruction d'un pays qui sortait du chaos. J'ai parlé des femmes du Rwanda à l'époque, mais je n'avais pas eu le temps de pouvoir d'approfondir le sujet des femmes. Alors du coup, je me suis offert un documentaire sur les femmes.
Alors justement, 8 portraits de femmes, qui sont ces 8 femmes?
Des femmes de domaine, un secteur d'activité complètement différent. Alors il y a par exemple la ministre des Affaires étrangères, c'était intéressant de savoir comment elle faisait face à tout ce monde masculin, parce que c'est à 80%, elle se retrouve qu'avec des hommes. Voilà, c'est la voix du Rwanda à l'extérieur. Il y avait aussi cette jeune femme de 28 ans qui dirige 30 start-up à 28 ans. Enfin bon, j'avais besoin de montrer aussi cette modernité, ce rapport à la technologie au Rwanda. Parce qu'en fait, j'explique bien que le Rwanda, c'est un pays enclavé, un petit pays de 28 000 km² qui a besoin de l'extérieur pour vivre. Donc, il fait beaucoup de conférences, c'est un pays de conférences. Tous les businessmen viennent là-bas faire des grandes conférences, et politiques aussi. Mais il y avait aussi une volonté de montrer que c'est un pays ouvert, malgré tout. Parce que souvent, à travers la figure autoritaire du président Kagame, on a l'impression que c'est un pays où les gens ont peur de parler, de s'exprimer, tout ça. Mais c'est aussi un pays qui vit une culture du mutisme. Et c'est vrai que les femmes, par exemple, le symbolisent assez bien. Elles sont les garantes des traditions rwandaises, de la culture traditionnelle rwandaise. Mais elles embrassent aussi cette modernité avec beaucoup de naturel. Et c'est en ça que je trouvais que c'était assez singulier.
Il n'y a eu aucune difficulté à poser les questions?
Parfois. J'adore.
Virginie,
elle est devenue journaliste.
Vous pouvez sortir, les gars.
C'est une question importante parce que, grosso modo, Kagame est quand même une forme de dictateur tout de même. C'est une dictature un peu policière, le Rwanda aujourd'hui.
Je dirais pas dictature. Je pense qu'on a un vrai problème en France avec l'autorité. Donc, de fait, quelqu'un qui représente une autorité dans un pays, surtout africain, est tout de suite un dictateur. Mais sincèrement, allez poser la question aux Rwandais sur place. Déjà, dans la culture rwandaise, il est très difficile de s'exprimer en public. On ne parle pas, on laisse la parole aux sages, aux plus âgés. Kagame fait figure d'autorité, mais il est aussi le symbole de la libération.
Moi, j'aimerais.
Allez, Virginie, on y va ensemble.
Mais j'adorerais faire ça. J'ai très, très envie de pouvoir.
Je t'invite quand tu veux.
Au Rwanda, tu laisses la parole aux sages, et en France, tu laisses la parole à Virginie.
Gros bisous. Allez, au revoir.
Vous, les femmes.
Virginie.
Oui.
Ah, vous êtes toujours là.
Non, je n'ai pas de questions.
Moi, j'en ai plein.
C'est parfait. Alors, en 95, on part en 95 et vous frappez très fort.
En 95.
Vous attaquez au répertoire classique français, vous jouez Thérèse. Dans une reprise du Père Noël est une ordure.
17 ans. C'est chouette qu'on m'en parle encore. Parce
ben
que
oui,
c'est,
un classique.
C'est très chouette, oui. J'avais 17 ans. Donc, c'était.
Première expérience.
Et puis, de toute façon, cette envie de faire du théâtre. Alors, quoi qu'on me propose, à partir
c'était
du
oui.
moment où il faut. Oui, il faut qu'on construise, il faut qu'on répète. Et c'est un bonheur. Et là, c'est vrai qu'encore maintenant, quand j'arrive au théâtre, je suis contente. Mais qu'est-ce que je suis heureuse. Je suis séparée un peu de ma famille, puisque ma famille vit tout le temps en Belgique. Et en même temps, je me dis, mais c'est quand même très chouette de
d'être
pouvoir...
séparé de la famille.
Ça fait du bien. Honnêtement.
Une respiration.
Mais tout est organisé. Les courses sont faites.
Ben
tout est
j'espère.
Planifié. Mais je suis heureuse d'avoir cette possibilité de faire les choses que j'aime. Et qu'on n'est pas, en tant que maman, qu'on ne m'ait pas dit, ben non, c'est terminé maintenant.
C'est fini maintenant. On reste à la maison avec Billy.
Jamais je ne ferai ça.
1996, réussite à l'examen d'entrée du Conservatoire Royal de Bruxelles. Et vous sortez avec, excusez-moi du peu, le premier prix d'art dramatique.
Bravo.
Je vais remettre les choses
clairement.
Le premier prix, c'est un pourcentage qu'on doit avoir pour sortir de l'école. Donc on peut présenter ce premier prix en 3 ans ou 5 ans. Après 5 ans, si on ne l'a pas, on nous dit vous pouvez partir maintenant, faites autre chose.
Dehors.
Mais on est nombreux à avoir ce premier prix. Il y a juste cet examen d'entrée qui est un peu la même chose qu'ici en France. Donc c'est plutôt réussir cet examen d'entrée qui nous fait comprendre qu'on pourrait peut-être faire quelque chose
envisager.
Un jour. Si vous avez de la chance, si vous travaillez, si vous connaissez des gens... Mais rien n'est acquis et c'est surtout après qu'on se rend compte que l'école n'est jamais qu'une école et que tout se jouera après.
En 99, vous rencontrez Dominique Aumont qui vous propose d'écrire un seul en scène. Il vous propose, vous dites, d'être inconsciente. Qu'est-ce
oui.
que ça veut dire ?
Être inconsciente, ben, j'ai fait mon premier prix au conservatoire, il y a un examen de fin d'année, un spectacle de collaboration avec tous les élèves, et il y a ce directeur de théâtre qui me voit et qui me dit, j'ai l'impression que ça pourrait vous aller, le seul en scène, j'ai envie de vous voir dans ce domaine. Sauf que c'était plein de préjugés, on en parle, mais il y en a partout des préjugés. Mmh. Quand j'étais au conservatoire, ça n'était pas du tout du théâtre. Faire du seul en scène, du one woman show, mais mon Dieu, mais
c'est
jamais.
C'est un peu vulgaire.
C'est très sale.
Ouais.
Ne touchez pas à ça, vous allez attraper des microbes. Donc vraiment, il y a ce côté-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a quand même beaucoup rappelé qu'il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et donc, au lieu de me dire, ah ben non, je ne peux pas faire ça, j'ai décidé de faire des textes classiques et d'être comédienne classique. J'ai dit, oh d'accord. Parce que j'avais vraiment envie de... Il fallait faire quelque chose, on sort de l'école. Donc j'ai proposé d'écrire, on m'a proposé un théâtre, il y avait 10 dates. Et ce spectacle s'est joué sur 2 ans. Mais je ne me voyais pas du tout faire du seul en scène. C'est pas dans mon tempérament, en tout cas. J'ai été inconsciente dans ce sens-là, où il faut être fou pour décider de monter tout seul sur scène et de porter tout ça sur ses épaules.
En tout cas, vu le succès de vos seuls en scène, vous devez le remercier 1000 fois.
Oui, je le remercie beaucoup. Lui, il est parti vivre en Afrique. Il est parti, vivre en Afrique. Il a monté une imprimerie en Afrique. De
il est président d'un pays, oui. petit pays d'Afrique et certains l'appellent le dictateur. Je ne comprends pas.
Il est à Cotonou. Il est à Cotonou.
Ah, dis donc, oui.
Je n'oublie personne. Jamais.
En tout cas, vous êtes reconnaissante de tous ceux qui vous ont aidé à traverser.
Bien sûr, et là, je rencontre encore des gens, donc j'espère pouvoir faire ça un jour aussi.
J'essaierai de vous faire traverser en sortant de la maison de la radio, Virginie, parce que
si, monsieur
beaucoup
Cochon.
De voitures. Hein.
Mais ne me touchez pas la main, sauf si vous l'avez lavé, vous
non,
avez
non, non, je mettrai des gants, je suis enrhumé.
Vous êtes très enrhumé. Et comme pour Sonia, en mars 2018... Vous êtes arrivé sur France Inter, oh là vous là. Les femmes, vous avez présenté la pièce dans laquelle vous jouez actuellement, aux côtés de Zindine Swellem, qui est formidable. C'était quand ? La dernière fois ? Alors, comédie ou tragédie ?
Un peu des deux.
Ouais.
J'ai très envie de l'interpréter dans ces deux sens, ça passe de toutes les couleurs. Et comme j'essaie d'être vraiment d'incarner ce personnage, je pense qu'elle passe, pour la femme en tout cas, par tous ces moments d'amour, de tristesse, de solitude.
Faites-nous juste un petit pitch de la pièce.
Un pitch, c'est une femme qui vit avec son mari depuis très très longtemps, ils ne se parlent plus, et comme elle l'aime encore un tout petit peu, elle préfère le tuer en l'empoisonnant que de se défaire de son amour complètement. Donc elle le tue. Elle lui dit tout de suite, elle est très honnête, et elle va l'empoisonner à la digitaline. Et lui n'y croit pas, parce qu'elle n'a jamais rien fait toute seule.
Alors qui est le plus diabolique des deux ? C'est lui qui délaisse sa femme ou c'est elle qui l'empoisonne ?
Je crois que c'est une histoire de couple, ouais. C'est les deux. Ben elle a brûle pour point, cette femme est vraiment barrée, ce personnage est dingue. C'est qu'elle est entière. Je t'aime, je ne t'aime plus, je te tue, point.
Mais du coup, ça risque de raviver leur amour.
Et ça ravive. Je crois que le moment, de la passion, le début en fait. De la oui. pièce, ils ne se sont plus parlé. Tous les jours, le repas est pareil, identique, il ne se passe
il
rien.
Il lit son journal.
C'est ça, le bruit des couverts, la routine, le quotidien. Jusqu'au moment où elle lui dit « je vais te tuer, je t'ai empoisonné ». Et là, tout à coup, il s'intéresse à nouveau à ce qu'elle dit. Donc ça lance un dialogue, il se parle. Finalement, elle se rend compte qu'il l'aime encore un peu, que oui, c'est passé ça, donc il y a plein de doutes. Et il essaie de la tuer aussi, finalement.
Oui, c'est un vrai couple, il ne faut pas que
c'est citer. Mais c'est le quotidien. Et nous vendons de la digitaline juste à la fin.
Ce qu'il faut dire, c'est que le rythme va crescendo et il y a une intensité dans cette pièce, à la fois dramatique et comique, tout à fait exceptionnelle. C'est vraiment une pièce remarquable, je tiens à le dire.
Et servie par deux merveilleux acteurs.
Oui, et puis
on s'est régalé, on y a été tous les deux avec Albert, on a trouvé ça formidable.
Ah, vraiment, moi aussi, vraiment. J'y suis allé, mais pas avec eux parce qu'ils veulent jamais que j'aille.
Non, on ne veut pas y aller avec vous, mais on ira une prochaine fois dès que vous serez guéri, mon ami. C'est au Tristan Bernard jusqu'au 28 avril, du mardi au samedi à 21h, plus à 16h, le samedi également. C'était quand la dernière fois avec Virginie Hoc et Zdine, parce qu'il nous a dit, on ne disait pas Zinedine.
Zdine. Moi, je peux maintenant, je le connais bien, je dis Zinedine, mais ça l'énerve.
Non, c'est Zindine, exactement.
Zindine. Nous, nous engueulent quand on se trompe. Enfin, on n'a pas le même rapport. Vous a demandé, mesdemoiselles, un titre qui vous rappelait un souvenir. Un bon souvenir, on l'espère. Et Sonia, vous avez choisi ça.
Une feuille, un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des
brindilles. C'est Gaël Faye dont vous parliez tout à l'heure, qui est un de vos amis, proche.
Ouais, j'ai grandi avec lui.
C'est pour nostalgique ou ça vous met en joie d'écouter ça ?
Ça me rend nostalgique, oui. Et puis Gaël, c'est quelque chose. Enfin, c'est formidable. formidable ce qui était en train d'arriver à Gaël aussi. Son bouquin a été plébiscité par tous. Il est merveilleux. Il parle de notre enfance aussi, parce que moi je me reconnais beaucoup dans son bouquin, et puis voilà, c'est une partie de ma vie, voilà. Oui, ça me rend nostalgique, mais une jolie nostalgie.
Et heureuse à la fois.
Oui, très.
Mais ça se voit en tout cas.
Ah, merci.
On va l'écouter un tout petit peu.
En 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné. Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve.
Gaël Faye, petit pays, Gaël Faye, un proche de Sonia Roland. Virginie Hoc, nous avons demandé exactement la même chose. Un titre qui vous rappelle un bon souvenir.
Elle me l'avait tout dit. C'est une chanson verte.
Beaucoup moins poétique.
Et vous avez choisi.
Ah bah Chadé.
Oui.
Tu fais penser à quoi, Chadé?
Eh bien, à mon accouchement.
Ah bon?
En musique?
Oui, parce qu'en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe ici en France, on a le droit d'apporter une petite de la musique pour voilà, organiser un peu l'atmosphère.
Un truc un peu cosy.
C'est ça. Et j'ai une copine qui m'avait fait toute une compile avec Tata Yo-Yo et ça n'a pas fonctionné pendant les contractions. Et ça, on avait ce CD dans la voiture, mon amour a été cherché sans dire ben, j'ai un truc calme, voilà. Et vraiment, c'est une musique qui est passée en boucle. Celle-là, c'est le moment où Billy est arrivé et c'est devenu quelque chose. Donc,
Billy,
c'est
votre fille?
Oui, c'est ma fille. Mais oui, c'est un nom de chien, comme dirait ma mère.
Billy the Kid.
Billy the Kid.
Ah, les parents qui soutiennent leurs enfants. C'est
ouais. Non, mais c'est vrai que ce prénom, quand j'ai annoncé ce prénom, on m'a dit t'es spécial tout de même. Ou une armoire Ikea. Donc,
c'est vrai, je préfère
le chien. Vous dites c'est vrai, vous ne m'aidez même pas.
Parce que j'en ai construit des armoires Ikea. Alors que des bébés, ça blanc Billy, c'est autre chose.
Voilà. Donc, Chadé, c'est pour ça.
Ouais,
très bien. Mesdemoiselles, Sonia, Virginie, on va revenir un petit peu sur vos vues, mais de façon inter. De façon inter, ça veut dire qu'on va vérifier si vous êtes généreuse ou en empathie avec les moins chanceux que vous, les pauvres. Bref, faire un petit point à lutte des classes. On va vous interiser.
Je transpire.
Virginie Hoc, comédienne, promesse de snobisme, mais humoriste, promesse de générosité. Virginie Hoc pourrait facilement être une femme de partage, une femme que le talent a rendue généreuse. Mais l'est-elle pour autant? Est-elle une femme de cœur? Non! Bien sûr que non! Du haut de son 1m80, elle toise le peuple qui, à grands frais, vient la voir jouer ses pièces ou ses spectacles. Spectacle où, comme dans le sketch de la liste de courses, elle simule de façon honteuse et dégradante la copulation, faisant semblant de se faire culbuter, grimper, tambouriner comme une souillon sans vertu, et ce, devant une foule aussi hagarde qu'incrédule, qui, à mi-chemin entre l'envie et le dégoût, hésite à baver sur le velours de son siège de théâtre qu'il ne pourra jamais rembourser. Vilaine! Est-on mieux loti avec la venue de Sonia Roland? Sonia Roland, actrice et réalisatrice de documentaires aussi concernants qu'appliquants, semble avoir toutes les qualités pour être cette femme généreuse qui pourrait nous faire oublier aujourd'hui l'égoïsme de la saltimbanque belge prénommée Virginie. Mais mademoiselle Roland est-elle une femme de cœur?
Non!
Bien sûr que non! Ancienne Miss France, elle traite le prolétariat comme elle traita Tatiana Bouger, sa pauvre première dauphine de décembre 99. Tatiana, Miss Provence, aussi
Bouguer,
accablée.
Monsieur.
Bouguer, si je veux! Aussi accablée que terrassée par le chagrin et l'humiliation, Tatiana arrivée deuxième d'un concours sans pitié sous le regard implacable de mépris d'une Sonia arrivée au sommet qui, durant toute une année, n'en redescendra jamais. Méchant! Mesdemoiselles, vous auriez pu être au firmament de la générosité, du don de soi, mais vous avez choisi la voie de l'indifférence. C'est moche. C'est moche, mais Virginie, Sonia, qu'est-ce qu'on est content de vous avoir aujourd'hui avec nous pour les 40 ans de la mort de Claude François! Belinda.
Il faut que je vous chante pour oublier. Étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front
l'attendre comme je l'ai fait souvent. Mais j'entends crier ma solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur. Un soleil sans soleil et sans chaleur.
François, Belinda, dans Vous les femmes, sur France Inter.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais, étant ouais. Sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Et aujourd'hui, les femmes exceptionnelles qui sont dans Vous les femmes sur France Inter sont Sonia Roland, documentaire qu'elle a signé Femmes du Rwanda.
Je m'appelle Sonia Roland. Je suis née et j'ai grandi en Afrique, au Rwanda. Je pars vers mes racines, à 9000 km de Paris. Des retrouvailles avec une terre qui a complètement changé de visage. Les femmes, souvent veuves, ont remis ce pays debout.
Femmes du Rwanda, signée Sonia Roland, proposée en multidiffusion sur Planète Plus. Nous avons également avec nous, nous avons la chance d'avoir Virginie Hoc pour la pièce formidable. C'était quand ? La dernière fois.
Chérie ? Tu ne vas pas être content. Tu vas mourir.
Non mais attends, excuse-moi, dans moins d'une heure et demie, je suis mort. Assassiné par ma propre femme, je suis quand même en droit de demander quelques explications.
On va pas remuer le couteau dans la plaie.
Je te fais remarquer que je ne suis pas encore mort.
Oui, mais t'es plus proche de la mort que de la vie.
Voilà, donc quand on vous demandait si c'était tragique ou si c'était comique, c'est vrai que c'est un peu des deux. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, et on est d'accord avec Albert là-dessus, c'est que c'est formidablement bien interprété.
Oh, quelle belle pièce. Oui.
Anthony Bélanger. Oui. La femme africaine, oui, mais pour un journaliste historien de votre trempe, nous allons aller un cran au-dessus, si je ne m'abuse, avec des reines.
Ben, je voulais rendre hommage à Sonia Roland, bien sûr, et à son travail sur l'Afrique et sur le Rwanda. Puis surtout mettre une bonne claque à ceux qui disent que l'Afrique, vous savez, n'est pas rentrée dans l'histoire. Ça, c'est une bande d'ânes battés. Je ne sais pas à qui je fais illusion.
Moi non
vous
plus.
Non plus. Hein.
On ne sait pas.
L'Afrique, c'est l'histoire. Et je rappelle quand même qu'à l'époque, on se peignait le corps en bleu, on se beurrait les cheveux, et bien on se tapait à coups de gourdin, mais les Africains avaient déjà des empires et des royaumes. Et je voulais parler des reines d'Afrique parce que.
Qu'est-ce que le corps en bleu qui se met du beurre dans les cheveux. C'est très bizarre, Anthony Bélanger. Pardon, allez-y.
Et je trompe.
Les Gaulois, par exemple. En fait, l'idée, c'était aussi de parler de ces reines d'Afrique, parce qu'elles ont traversé l'histoire africaine et qu'elles sont extrêmement importantes. L'Afrique est un continent dans lequel les femmes ont souvent eu, à l'égal des hommes, non seulement droit au pouvoir, mais l'ont exercé pleinement. Alors, il y a des reines mythiques, hein, comme la reine Ashanti. Il y a Asantewa, par exemple, qui s'est battue contre les Anglais en 1928. On est au Ghana. La reine de Zaria, au Nigeria, une reine mythique au 15e ou 16e siècle, qui s'appelait la reine Amida, une combattante Haoussa, la reine de Saba, évidemment, qui est la reine biblique et la reine coranique aussi, puisqu'on la retrouve dans les deux livres sacrés. Mais il y en a quelques-unes quand même qui m'ont plus marqué que les autres, j'aime particulièrement. Eh bien, il y a la reine Ranavalomana.
Ouais,
qui est une reine de Madagascar. La dernière reine malgache qui est morte en 1917 en exil, exilée par les Français à La Réunion puis ensuite en Algérie, et qui a régné quand même de 1883 à 1897. Une reine un peu cruelle pour tout vous dire, parce que quand on a le pouvoir, on l'exerce forcément, on l'exerce parfois avec la violence, qu'on soit homme ou femme, mais une reine qui a résisté. C'est ça que gêne dans cette
Ce qu'il faut dire, c'est que les troupes coloniales à Madagascar ont commis des massacres
atrocités épouvantables et qu'elle était peut-être quelquefois.
C'était jamais la méthode douce.
Et puis il y a aussi cette impératrice.
Madagascar particulièrement.
Cette impératrice sur laquelle on pense jamais, cette dernière impératrice éthiopienne qui s'appelait l'impératrice Zeuditu, qui est une femme, qui est la femme qui a régné juste avant Haïlé Sélassié et qui est la dernière femme impératrice à avoir régné au monde, puisque depuis son abdication en 1900. 1916, enfin sa mort en 1916, eh bien personne après elle, aucune femme après elle dans le monde entier n'a régné avec le titre d'impératrice.
Mais Anthony, non, je sens tout cela, c'était bien contemporain. Mais il me semble, je sens que l'indécrottable romantique que vous êtes a envie d'aller puiser un peu plus loin dans l'histoire. Me trompe-je?
Oh non, vous trompez pas du tout. Et on va peut-être écouter un tout petit peu de musique histoire de se mettre dans l'ambiance. Alors voilà, imaginez.
Je ferme les yeux.
On est au 3e centenaire après Jésus-Christ.
Je ferme fort les yeux.
1700 ans environ. Et il y a là, au milieu du désert algérien, une reine de légende qui s'appelle la reine Tin Anan, la reine des Touaregs. Une reine dont les Touaregs disent, les Touaregs du Hoggar, bien sûr, ce Hoggar, oui, c'est cette région du sud de l'Algérie, disent qu'elle est la mère de tous les Touaregs nobles du Hoggar, qu'elle est leur mère à tous. Cette reine a régné comme ça sur les mythes et légendes Touaregs depuis des millénaires, depuis des centaines d'années, jusqu'à ce qu'en 1925, quelque part au fond du Hoggar, cette reine berbère, cette reine Touareg, eh bien, elle a presque recouvré une espèce de réalité. On trouve au milieu du Hoggar un mausolée magnifique qu'on n'avait pas ouvert depuis probablement plus de 1500 ans. Et au milieu de ce mausolée, un cercueil. Et au milieu de ce cercueil, une femme couverte d'or, avec à côté d'elle des pièces datant de Constantin, des pièces du 3e siècle après Jésus-Christ. On venait de découvrir le tombeau, le mausolée de cette reine légendaire.
Kim Kardashian. Couverte d'or.
Le mausolée de la reine Tin Anan. Ah, on peut encore le visiter aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas que c'est le mausolée de la reine Tin Anan? Ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment un mausolée, que c'est vraiment une tombe de femme, c'est vraiment une tombe de femme noble, probablement Touareg, puisque c'est là que vivaient les Touareg, vivent toujours d'ailleurs les Touareg, et que la légende qui courait autour de Tin Anan ne pouvait pas autrement que s'incarner dans ce tombeau magnifique, qui est le tombeau de la reine Tin Anan. C'est cette histoire-là que je voudrais vous raconter. Parce que les Touaregs qu'on voit aujourd'hui se battre au Mali ou ailleurs ou en Afrique, qui sont les fameux hommes bleus, les fameux hommes valeureux, et bien avaient des rois autant que des reines. Et la reine Tin Anan, qui est leur mère à tous, est une reine absolument légendaire. D'ailleurs, la chanson qu'on écoute est une chanson qui est consacrée et dédiée à Tin Anan. C'est aussi une chanson berbère et une chanson Touareg.
On écoute un peu.
Puis je ne pouvais pas parler d'une reine berbère sans parler de la Kaïna, bien sûr. La reine Kabyle, la reine berbère.
Ça a l'air de vous ravir, Sonia.
On est au 7e siècle, oui. Et elle se bat contre qui? Elle se bat contre l'invasion omeyyade, l'invasion arabe, l'invasion musulmane. Elle fédère entre elle des berbères, les berbères des tribus berbères. Elle règne sur l'Afriquie, c'est-à-dire la Tunisie et les Aurès aujourd'hui. Elle va finir par mourir au combat, cette reine berbère, parce que ce sont encore une fois des reines combattantes. Comme la reine Tin Anan, c'est une reine berbère. Comme la reine Tin Anan, c'est une reine combattante. Et elle est aujourd'hui réclamée par tout le monde en Algérie, depuis les juifs algériens qui sont convaincus qu'elle était juive, les chrétiens qui voudraient aussi en faire une reine à eux, les Kabyles en général. C'est devenu le symbole.
Est-ce que les Belges la réclament, Virginie?
Oui, oui, moi j'aimerais bien. J'y pensais, je me dis, du dos et nous alors.
Elle était belle, elle a régné longtemps, elle a résisté, elle a résisté contre l'envahisseur. Et, Sonia Roland, votre fille s'appelle Kaïna.
Kaïna, oui, et puis elle porte bien
ça. Il n'y aura pas d'étagère avec ce nom, ça c'est plus facile.
Ça, la Kaïna.
Ça, vous avez bien fait.
La Kaïna.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez appelé votre fille Kaïna?
Mais parce que son papa est franco-algérien de sa mère, et qu'il est surtout kabyle, et que Kaïna, vraiment, je pense que c'est vraiment la reine que se sont appropriées surtout les kabyles aussi, hein, encore aujourd'hui.
Une femme résistante, c'est important.
C'est une femme résistante, et puis ça lui va très bien. Elle a vraiment ce caractère de combattante, de jusqu'au boutiste. Mais en fait, la Kaïna, elle a surtout poursuivi en fait le combattant père qui était roi lui aussi.
Bien sûr. Ouais. Mais c'est assez fascinant d'ailleurs parce que toutes les reines dont je vous ai parlé sont toutes des reines combattantes.
Exactement.
Elles se sont battues contre les colons, en l'occurrence les Anglais, les Français un peu partout, soit battues contre d'autres tribus, c'est le cas de Tin Anan, mais surtout parce que c'était une reine belle et combattante. Et puis la Kaïna, c'est le symbole même de la résistance.
Merci Anthony Bélanger.
Merci à vous.
Mille merci. Pour parler de vos petites promotions respectives, mesdemoiselles, je fais appel à un spécialiste, quelqu'un qui n'a pas vraiment de tact, mais qui souvent est très précis. Jean-Roger Navarro, c'est à vous.
Navarro, j'écoute.
Bonjour la compagnie, mes hommages à vous autres, vous les femmes. Alors pour celles qui me connaissent déjà, elles, je me présente pas. Pour les autres, je précise que je suis Jean-Roger Navarro, oui, le neveu du plus vieux commissaire de police du monde. Actuellement, je suis vigile à France Inter, chargé de la protection rapprochée des invités de prestige du dimanche.
Merci de la précision, Jean-Roger.
Ma parole me coupe pas la parole. Pardon. En plus, quand c'est que j'ai un doute sur les invités, il m'arrive d'enquêter sur elles. Par exemple, Virginie Hoc, Il y a une chose qui me turlupine autant que si je trouverais une mouche dans ma chorba. Je me dis qu'une femme qui joue les empoisonneuses de façon aussi convaincante au théâtre, je suis sûr à 750% qu'elle serait capable de faire ça dans la vraie vie et de refiler un bouillon de 11h à son mari.
Ah, vous ne pouvez pas en prendre à Virginie quand même, c'est notre invité.
Mais je m'en prends pas, Morin. Je suis pris d'un doute, d'un gros doute. Et moi, dans le doute, je m'abstiens pas, je fonce. Je pratique ce que mon oncle, il appelait la justice préventive.
Ça consiste en quoi?
Alors, mise en garde à vue, avec interrogatoire à l'ancienne. Virginie, tu vois ce bottin là?
Ouais.
C'est celui de Babeloued, que mon oncle Navarro, il avait ramené d'Algérie, qu'il s'en servait qu'à des orfèvres pour faire parler, cracher leur merguez aux truands empoisonneuses dans ton genre. Alors je t'explique la méthode.
Allez-y, mais doucement.
Ça, c'est ta tête, Virginie. Ça, c'est le bottin. C'est le bottin sur ta tête.
Ça va pas.
Il est violent. Bon.
Non, j'aime bien.
Allez, je te laisse retrouver la mémoire pendant que j'interroge Sonia Roland.
Ah, vous devez pouvoir prendre Sonia maintenant, la pauvre.
La mort de tes os, essaye pas d'entraver ma justice. Parce que Sonia Roland, elle a des choses à dire sur un vol que mon oncle, il avait pas réussi à résolver. Alors, j'explique. Geneviève de Fontenay, qui a été ta patronne, eh bien, Sonia, ça a été ma troisième épouse.
Ah, ben dis donc.
Le scoop.
Non, arrête de me scooper. Geneviève et moi, c'était fusionnel, une passion charnelle. Mais je pouvais pas lui faire l'amour que quand elle portait son chapeau.
Ça va, Jean-Roger?
Oui.
Comme ça. Il y a des émotions, là,
oui. Il y a de l'émotion parce que comme ça, il me rappelait Pedro, un policier mexicain. J'avais été dingue. Il avait la même galure que Geneviève et la même moustache. Un jour, donc, que je la secouais trop fort, je parle de Geneviève, le chapeau est tombé. Alors, à chaque fois que je la jambonnais, je lui agrafais sur le crâne son chapeau avec des clous de tapissier. Mais un jour, le chapeau à Geneviève, il a disparu, envolé. Volé même. Et ça a été à la fin de nos amours. Sans son chapeau, Geneviève de Fontenay, elle redevenait Geneviève Poirot. Et les poireaux, ça m'a jamais excité.
Mais où est-ce que vous voulez en...
Je sais pas.
Vous êtes censé faire la promo.
De... Bon, alors, oui. C'est clair comme de l'eau de mon anisette. Le chapeau, il a disparu en 2000. L'année où Sonia Roland, elle a été élue Miss France.
Ah bon?
Alors Sonia, oui. Si c'est toi qui l'as chouravé le chapeau à Geneviève, faudrait que tu restitues ça. Voilà. Bon, mais faut dire... Ah, quand même, je m'énerve là, mais Sonia Roland, ton documentaire « Femme de Wanda » sur toutes ces femmes formidables m'a coupé la chic. Oh. Quant à vous, Virginie Hoc, dans cet écran la dernière fois, ok, vous voulez faire mourir votre mari, mais c'est surtout moi que vous avez fait mourir de rire. Alors toutes les deux, je vous accorde un sursis. Bonne fin d'émission.
Merci, oui, merci. Mille merci Jean-Roger, oh là là.
J'ai une petite question. Je ne vois pas.
Oh, c'est trop horrible.
Virginie, ok, une question à nous poser.
Oui, à Monsieur Jean-Roger. Pourquoi ai-je eu le droit d'avoir le bottin et Sonia n'a rien eu?
Ouais, mais pas
la violence corporelle.
Son tour va venir.
Oui, parce que
après
j'ai bien écouté.
L'émission.
Virginie Hoc pour la pièce « C'était quand ?» La dernière fois, Théâtre Tristan Bernard, c'est jusqu'au 28 avril, du mardi au samedi à 21h, 16h en plus le samedi. Et Sonia Roland pour le documentaire « Femmes du Rwanda » en multidiffusion sur Planète Plus. Sonia Roland, une fois que les femmes reprennent ou prennent les rênes d'un pays par manque d'hommes, ça pose un problème quand ils rentrent et qu'ils veulent reprendre leur place, les hommes?
Alors là, je ne crois pas, non.
Non,
non, non, je ne pense pas. D'ailleurs, j'ai tendu le micro à pas mal d'hommes et c'est vrai qu'ils défendent ça avec beaucoup de fierté, en fait, la place de la femme. Après, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Hein. Plus de 50% de la population était féminine. Il y avait 800 000 femmes veuves, 630 000 enfants orphelins. Il fallait avoir une sacrée...
Père de couilles.
Ouais. En tout cas, elles ont œuvré. Mais souvent, moi, j'aime me rappeler quand même qu'en France, je pense qu'on a vécu à peu près la même période. Après-guerre, finalement, on a eu besoin des femmes. Elles ont remplacé les hommes dans des usines. Enfin, elles étaient là, quoi. Et elles ont acquis leurs droits un peu après, mais en se battant. Et puis, elles continuent à se battre encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour les salaires. Et, et franchement, j'avais vraiment... envie, à travers justement ce regard posé sur les femmes rwandaises, ben de montrer aussi que ça marche en Afrique.
Si vous voulez découvrir ce documentaire, Femmes du Rwanda, en multidiffusion sur Planète Plus et en replay sur MyCanal. Virginie, vous jouez donc avec Zindine Swalem, qui est très très différent de vous comme comédien.
Oui, c'est un homme.
Oui, déjà, il y a ça, je l'avais remarqué. Comment ça se passe avec lui?
Bien.
Oui, racontez-nous.
Mais quel bonheur, mais je touche du bois, je fais des vœux à 0h00 pour que ça continue comme ça. On s'entend vraiment bien, on ne se connaissait pas du tout. Et puis on est deux sur scène, si l'on l'ambiance était mauvaise, mais je pense que ça serait un calvaire. C'est un bonheur, on doit faire très attention parce que nous n'avons pas le droit au fou rire. Notre metteur en scène, Johanna Boyer, n'adore pas ça. Ça nous est déjà arrivé.
Ça vous est déjà arrivé, forcément.
Oui, ça nous est arrivé, mais c'est comme tout, quand quelque chose est interdit, bah, alors on essaie de le contrôler, mais...
Ça me dit, Zindy... elle a eu un fou rire.
Oh, je ne l'ai pas eu toute seule. Non, sûrement que Zindy en avait un aussi.
Oui,
arrêtez de dire ça.
C'est vrai, tous les jours.
Johanna, moi, j'ai
tourné,
pas eu de fou rire.
J'ai tourné avec Zindy, c'est très difficile de jouer avec lui, hein, parce qu'il fait des blagues, il profite de chaque pause pour faire des blagues, enfin, il est insupportable et en même temps, on l'adore.
Oui, et pourtant, sur scène, sur scène, il est très respectueux. Oui. Où là, le metteur en scène lui dit encore de lâcher les chevaux parce qu'il y a des choses qui ont été établies et on pourra aller plus loin encore dans le burlesque. Mais il y a quelque chose de très réglé dans ce spectacle. Donc là, je suis très très contente. C'est un personnage que j'adore et un partenaire formidable. Mais vraiment, hein, c'est parce que c'est vrai. Je crois que je dirais pas tant de trucs chouettes si je le pensais pas.
En tout cas, le duo fonctionne, n'est-ce pas, Albert ?
Ah, formidable.
On en a été les témoins. Ah ouais. Tenez, puisque vous avez le micro.
Oui.
Virginie, vos projets, vous êtes en écriture, je crois.
Oui, j'écris un prochain seul en scène. Je dois bien vous avouer que je vais le travailler, je vais l'écrire longtemps en compagnie de Joss Houben, que vous connaissez peut-être, qui est un monsieur qui avait fait un spectacle formidable qui s'appelait L'Art du Rire, qu'il avait joué en rond-point.
Oui.
Oh, j'ai adoré parce qu'il travaille sur le corps et c'est vraiment quelque chose que j'adore peaufiner, le mouvement. Mmh. Mais je crois que je vais mettre du temps à l'écrire parce que je suis très très heureuse de partager la scène. Définitivement, quand on en parlait tout à l'heure, le seul en scène est arrivé parce qu'il fallait absolument que je me bouge et que j'avais envie de faire ce métier. Mais j'ai envie davantage de tourner avec des gens. Je veux être consciente des équipes. J'en ai besoin. Je suis contente d'être avec vous, d'écouter vos envies et tout. Je trouve ça passionnant d'avoir des gens passionnés autour de moi.
Quand on sera un peu avancé, vous revenez nous voir ?
Ben oui. Et peut-être que je pourrai encore vous interrompre et poser des questions.
Oh. Tenez, Sonia Roland, vous faites
non, bonus, parfait.
Vous avez des projets aussi, notamment le tournage d'un film ?
Bah, surtout la fin de l'écriture d'un long métrage, co-écrit avec Emmanuel Poulain-Arnaud et qui raconte le parcours improbable d'une candidate à Miss France.
Oh, dites donc.
Oui.
Vous connaissez le dossier ?
Oui.
On ne parle que des choses qu'on connaît très bien.
Ouais, c'est tiré de faits réels, mais ça reste quand même une fiction.
Il y aura des chapeaux,
il y aura un chapeau qui va passer de temps en temps comme ça.
Alors je sais où il est.
C'est l'heure des cadeaux, c'est les cadeaux d'Alberto.
Alors deux livres de la collection Point Aventure au seuil, une nouvelle collection, enfin c'est pas une nouvelle collection. Alors pour vous, Virginie Hoc, Une femme chez les chasseurs de têtes, c'est les récits d'aventure de Titaïna, c'est pas la Kaina, alias Elisabeth Sauvy, qui a été une pionnière du journalisme littéraire et qui fut une des premières femmes qui a accédé au statut de grand reporter, comme Albert Londres par exemple. Alors là, il y a des récits incroyables, notamment les mémoires de reporter, où elle raconte une traversée du Mexique et des États-Unis avec un pilote d'avion totalement ivre mort au temps de la Prohibition. Personnage excellent. Dans la même collection, c'est pour vous, Sonia, J'ai épousé l'aventure de Osa Johnson. C'est l'autobiographie d'une des plus grandes aventurières du XXe siècle avec son mari, Martin. Elle a été une pionnière du film Animalie en Afrique, dans les îles du Pacifique et dans l'imaginaire collectif des années folles. C'est un des grands symboles de l'émancipation féminine. Donc, c'est deux bouquins de la collection Point Aventure au Seuil. Deux récits de femmes tout à fait remarquables et c'est donc dans l'esprit de cette émission, vous les femmes.
Merci. Messieurs, mesdames, l'émission est terminée. Aujourd'hui, nos invités étaient Sonia Roland, au documentaire Femmes du Rwanda, proposé en multidiffusion et en replay. Virginie Hoc pour la pièce, c'était quand la dernière fois qu'elle joue en duo avec Zindine Swalem au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 28 avril, du mardi au samedi à 21h, samedi séance en plus à 16h. Merci Albert Algou, merci Hervé Pochon.
Moi je joue au théâtre pareil, demain et après-demain, dans le même théâtre que Virginie, au Tristan Bernard, à 19h.
On est dans la même loge.
Oh, c'est magnifique.
Merci Anthony Bélanger.
Merci à vous, j'ai
Anthony,
adoré.
On se retrouve demain ?
Mais oui, on se retrouve tous les petits matins, vous
savez. Tous les petits matins, 6h45 par là. À la réalisation de cette émission, Marie-Annick Rimbaud, attachée de production, Christine Kern à la technique et Léo Prangère. Programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Florence Sestac et Isabelle Iturburu. Au revoir, bon dimanche, à l'écoute de France Inter, évidemment. Et à demain avec le petit Anthony, évidemment, à 6h45.
Petit.
Excellent week-end à l'écoute de France Inter.
Merci. Bien sûr.